Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveur et savoir autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. C'est une émission composée d'un plat du jour et d'une madeleine. La madeleine, c'est le souvenir gustatif d'une personnalité issue la plupart du temps du monde culturel et du monde artistique. Et c'est Mathéo Carantin qui s'en charge. Bonjour Mathéo.
Bonjour Caroline.
Alors qui aurons-nous le plaisir d'écouter à 12h15 dans votre madeleine?
On va écouter avec beaucoup de plaisir la madeleine de la comédienne Valeria Bruni Tedeschi.
À tout à l'heure, midi et quart donc. Et puis nous allons parler pavé, palais, domino, tablette, grand cru et cru d'exception. Vous aimez le chocolat ou pas, Mathéo ?
J'adore ça.
Bah, ça tombe très bien. À l'occasion du Salon du chocolat, qui s'est ouvert jeudi et qui se tient à la Porte de Versailles à Paris jusqu'à demain. Portrait d'un patriarche de la torréfaction et du conchage, un maître chocolatier qui depuis 1998 a repris le flambeau familial d'une maison qui porte son nom, elle, depuis 1884. Stéphane Bonnat, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Ces Bonnes Choses.
Merci.
C'est une entreprise familiale, ça veut dire que vous êtes l'arrière-petit-fils du fondateur, si je ne m'abuse. J'ai lu parfois arrière-petit-fils, puis parfois arrière-arrière-petit-fils, si vous allez nous dire la vérité. En tous les cas, il s'appelait Félix. Il était lui-même fils de confiseur, liquoriste ?
Oui, alors en fait, la maison Bonnat et son histoire avec le cacao remonte à 1756.
C'est très précis.
Oui. Et nous sommes devenus chocolatiers à part entière au début des années 1880. Et la raison sociale de la chocolaterie a changé en 1884. Donc nous sommes chocolatiers purs et durs depuis cette date, mais notre amour immodéré pour cette petite fève étrange remonte à un peu plus d'un siècle auparavant.
Un peu plus d'un siècle auparavant encore, c'est-à-dire fin du XVIIe, fève fait son entrée en France.
Oui, alors de manière assez originale d'ailleurs, puisque à cette époque le chocolat tel qu'on le consomme n'existe pas. Et les recettes composées, entre autres de cacao, n'incluent que 5 à 7% de cette fève magique. Tout simplement, c'est lié à son acidité et à son astringence. Il faudra attendre 1879, très exactement, date d'un dépôt et d'un brevet, pour que l'on réussisse à se débarrasser de ces gros défauts que sont l'acidité et l'astringence, grâce à ce que l'on appelle le conchage. Le conchage laminaire, inventé par un certain monsieur Lindt, non pas à la suite de studieuses recherches, mais parce qu'il partit un jour à la chasse pendant un week-end en oubliant d'arrêter une machine. Et lorsqu'il est revenu, il a entendu tourner son broyeur, il a dit « Zut, mon chocolat est fichu ». Et bien au contraire, il était devenu bon et mangeable. Et à l'exposition de 1880, avec un de ses confrères, monsieur Pupier, ils distribuèrent, je crois, la bagatelle de 4 millions de petites pistoles de chocolat à tous les visiteurs, afin de montrer que le chocolat était désormais consommable et surtout bon. Mon arrière-grand-père, se rendant à cette foire, et connaissant le cacao, car il était liquoriste, confiseur de profession, décida de commander les machines auprès des fabricants suisses, la maison Kussner. Il s'est fait livrer, je crois, le 7e casse cacao tarar produit par cette maison séculaire. Et il s'est lancé dans la fabrication du chocolat. Et voilà, et moi je suis le 7e dirigeant de l'entreprise familiale depuis cette période.
Qui a toujours sa devise, ce qui fait du bien au palais ne fait pas de mal à l'âme.
Exactement. Et ça illustre un petit peu notre vision des choses. Il faut manger du chocolat pour être en pleine forme, être content, heureux, détendu, bien dormir et ne pas grossir.
Vous êtes consommateur quotidien, Stéphane Bonnat, en tant que maître chocolatier ?
Ah oui, si on concède que manger entre 500 grammes et 1 kilo de chocolat puisse s'apparenter à une consommation normale. Oui.
Alors si on vous suit bien, le conchage est donc une étape indispensable à la fabrication d'un chocolat. J'irais même un peu plus loin, le chocolatier, c'est celui qui retire l'amertume du cacao au départ. Le cacao pur, c'est sacrément amer.
Tout à fait.
Pour pouvoir faire du chocolat, c'est enlever l'amertume du chocolat.
Alors là, je vais jeter un gros pavé dans la mare. Normalement, le chocolatier est la personne qui transforme le cacao en chocolat. Éventuellement, il va fabriquer des tablettes ou des fractionnés de tablettes. Et là s'arrête son travail. Celui qui va mettre en avant les caractéristiques du chocolat à travers des recettes de bonbons de chocolat ou autres est le confiseur. Et au fronton des maisons anciennes, on lisait toujours « chocolatier confiseur ». En gros, de la fève jusqu'au produit final. Maintenant, on peut être chocolatier, je schématise un peu, mais en achetant des cartons de 10 kilos de bonbons de chocolat, puis en les fractionnant en ballotins de 250 grammes, à partir du moment où c'est une activité pérenne sur, je crois, 5 ans, on peut prétendre, et qu'on fait un petit peu de transformation, on peut prétendre au titre de chocolatier. Il n'y a plus de terme qui dissocie les deux activités, celle qui consiste à travailler depuis la matière première, et celle qui consiste à fractionner un produit déjà fait pour le revendre auprès du consommateur.
Et on les compte sur les doigts d'une main, hein, aujourd'hui, ceux qui font le chocolat de la fève à la barre, dit-on, de la fève.
Tout à fait. Alors,
dont vous faites partie, Stéphane Bonnin.
Voilà, alors on va dire sur des volumes qui parlent un petit peu, nous sommes, je crois, 6 ou 7 en France, pour la quasi-totalité des maisons séculaires, qui sont là aussi gérées de père en fils. Après, il y a un nouveau phénomène qu'on appelle le bean to bar. Le bean to bar est à la chocolaterie ce que la musique grunge est au rock'n'roll, en gros. C'est-à-dire qu'on travaille un petit peu dans son garage ou dans sa cuisine, on fait quelques produits, beaucoup de communication, et finalement, les consommateurs ont tendance à penser qu'on fait le même métier, mais pas du tout.
C'est pour ça que vous dites dans le très beau livre que vous avez fait paraître en 2021 aux éditions La Maison, très beau et très gros et très lourd livre qui s'intitule « Chocolat ».
Oui, c'est vraiment ça. Une sale habitude.
C'est pour ça que le premier chapitre s'intitule « Qu'est-ce qu'un chocolatier ?» mais que le sous-titre c'est « Contour d'un métier en voie de disparition ».
Tout à fait. Il n'y a plus d'école de chocolaterie. Mon père ainsi que le regretté Robert Lynx ont été parmi les derniers à faire une véritable école de chocolaterie qui s'appelait la Coba et qui a disparu puisqu'il n'y avait plus de chocolatiers. De même que lorsque nous devons renouveler notre matériel qui a, pour certaines de nos machines, enfin qui avait en tout cas quasiment 2 siècles, il a fallu que nous le fassions reconstruire par des entreprises dont la spécialité est plus l'aéronautique que la confiserie. Tout simplement parce que ces machines n'existent plus. On peut, en tant qu'industriel, trouver des lignes de production qui font quasiment 1,5 km de long. Pour des artisans comme nous, acheter du matériel, c'est très, 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 très compliqué.
Et voyager, ça devient compliqué parce que vous êtes un chocolatier, en tous les cas, tel que vous vivez votre métier et votre passion, Stéphane Bonnin. C'est avant tout quelqu'un qui voyage. Vous passez 5 mois par an à parcourir le globe.
Ah oui, alors non, pendant 5 mois par an, nous parcourons le globe, mais par petit saut de puce, puisque j'ai quand même un vrai métier qui est celui de chocolatier. Nous avons nos plantations, Brésil, Pérou, Mexique, entre autres, et il y a eu une période d'adaptation pour que nous puissions former les planteurs au niveau de qualité que nous souhaitions avoir pour notre cacao. Il ne faut pas oublier que le chocolat est une invention européenne. Ça n'est pas une invention sud-américaine, par exemple. Et notamment, la fermentation des fèves, avec des contrôles très stricts sur les températures pour mettre en avant certaines palettes aromatiques plutôt que d'autres. Et c'est un savoir-faire qui doit être transmis. D'autre part, nos partenaires, donc dans les plantations, nous ne sommes pas propriétaires, se voient offrir cette formation, ce qui leur permet de développer leur activité économique en dehors de la nôtre, puisque nous sommes des tout petits consommateurs. Quand on achète 10 tonnes de fèves de cacao à un producteur, c'est vraiment, c'est quasiment le maximum que nous fassions, alors que ces mêmes producteurs vont avoir, 40, 50, 100 tonnes de fèves à écouler. Donc on leur amène un savoir-faire qui leur permet de se positionner sur le marché de ce qu'on appelle le cacao fin aromatique, et à contrario du cacao au rack, ça leur permet de le vendre plus cher, de s'adapter aux requérances de leurs clients et de mieux gagner leur vie. En fait, dans l'absolu, on peut dire que nous avons des programmes sociaux qui sont très développés. Beaucoup de nos confrères ou d'autres spécialistes disent qu'on a facilement une quinzaine d'années d'avance par rapport à l'industrie, par exemple, ou par rapport aux autres artisans, tout simplement parce que nous sommes très présents sur place. On veille à ce que nos planteurs puissent manger tous les jours, scolariser leurs enfants, avoir une couverture médicale minimum, s'habiller, venir nous voir en Europe. Ça implique à la fois un transfert de savoir-faire pour qu'ils puissent mériter ce niveau de vie, si j'ose dire, mais aussi nous achetons notre cacao entre 4 et 11 fois les cours de la bourse. On a une méthode de calcul qui est un petit peu empirique et qui fait bondir les experts comptables et les mathématiciens. C'est-à-dire que lorsqu'on va acheter du cacao, on regarde combien de personnes dépendent de cette activité. On détermine ce fameux budget d'un niveau de vie humain à minima. Et ensuite, on regarde combien de kilos de cacao ils sont capables de faire. Et ça nous donne un prix au kilo. Et en général, on ouvre un peu les yeux comme des soucoupes parce que lorsque le cours de la bourse est par exemple à 2 livres sterling le kilo, on peut atteindre du 22 euros pour nous. Donc on est vraiment... Et chose assez paradoxale, je me suis rendu compte à la suite de plusieurs messages reçus par des clients que certaines de nos tablettes étaient vendues en boutique spécialisée moins chères que des tablettes haut de gamme en grande surface. Et pourtant, on ne perd pas d'argent. Hein. Donc, quelque part, il doit y avoir une espèce de triangle des Bermudes financier ou alors, il y a un mystère que je ne m'explique pas.
Alors Stéphane Bonnat, vous faites très attention donc aux producteurs, vous venez de le dire, à leurs conditions de vie, à leurs terres. Vous faites évidemment très attention à la sélection des cacaoyers et des fèves dans lesquelles vous croquez. Mais alors comment fait-on ? Alors ça aussi, c'est un savoir-faire, donc transmis là de père en fils, hein, j'ai bien compris. C'est un savoir-faire qu'on transmet, mais c'est aussi un savoir-faire que vous pouvez nous transmettre à nous.
Oui, alors... Bon, déjà, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que quand on nous parle de Criollo, Trinitario et Forastero, en type génétique du cacao, c'est formidable, sauf que sur les trois, il y en a deux qui n'existent pas. Il n'y a pas trois types génétiques du cacao. On est, je crois, à l'heure actuelle, sur 1450 types différents. Il y a 10 grandes familles qui se répartissent sur la planète de manière plus ou moins heureuse. Souvent, c'est lié à une activité humaine ou aux oiseaux, et parfois même aux écureuils. C'est le côté un petit peu... La nature travaille pour nous. Hein. Le cacao est un produit formidable. En fait, on part du principe, si l'on en croit le CIRAD, qui est le plus gros centre de recherche sur le cacao et qui est en France, à Montpellier. Et comme quoi, les choses sont bien faites. Il y a Amelonado, Contamana... Curare, je vais le dire en français, c'est plus simple. Donc Criollo, le fameux qui existe, Guayana, Iquitos, Maranon, et non pas Maranian, mais Maranon, National, Nanay et Purus. Voilà, là on a les 10 grandes familles qui ensuite vont se subdiviser en tout un tas de sous-familles qui sont différentes entre elles et qu'on va retrouver un petit peu... pas au petit bonheur la chance, mais on n'a pas forcément de zone vraiment sélectionnée pour chacune de ces familles. Il y a un truc qui est encore super amusant en tant que chocolatier à gérer, notamment quand on est dans les plantations, c'est que le cacaoyer, par exemple, prenons on part sur le national, on peut avoir un cacaoyer national, mais avoir des cabosses de type criollo. C'est-à-dire que le type génétique du cacao n'est pas forcément celui du cacaoyer. Et dans une plantation qui va, par exemple, faire un hectare, on va avoir entre 7 et 11 types génétiques différents qui vont être pollinisés par d'autres types génétiques qui seront à 2 km sous le vent. Il est donc impossible de déterminer le type génétique des cacaos avec lesquels on va faire du chocolat. Et c'est la raison pour laquelle nous ne l'indiquons jamais sur nos tablettes. Parce que de toute manière, il faudrait que la liste soit à minima de 7 types de cacao différents, à supposer que chaque cabosse soit analysée génétiquement avant d'être mélangée dans un bac de fermentation.
Bon, Stéphane Bonnat, vous n'êtes pas tombé, et alors littéralement, hein, dans la marmite de chocolat quand vous étiez petit, pour rien. On entend, vous êtes intarissable sur le sujet. Vous avez d'ailleurs apporté un certain nombre de tablettes, j'ai peut-être plus que 10 d'ailleurs en l'occurrence. Oui. Donc on va écouter la madeleine, je vais vous laisser en ouvrir quelques-unes et puis ensuite on va déguster.
Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Un extrait de Forrest Gump, vous aurez reconnu, Mathéo. Pour parler cinéma, enfin pas parler exactement cinéma, avec une actrice de cinéma.
Oui, mais que j'ai rencontré Valeria Bruni-Tedeschi, la comédienne Valeria Bruni-Tedeschi, que j'ai rencontrée parce qu'elle est à l'affiche du film Fracture de Catherine Corsini. Fracture, c'est un huis clos nocturne dans le service d'urgence d'un hôpital parisien submergé, lui, par les fractures sociales, les soignants à bout et en grève, des gilets jaunes meurtris, des CRS qui attendent aux portes, et Valeria Bruni-Tedeschi dans le rôle burlesque et explosif d'une artiste en pleine crise de couple qui se confronte au réel et finit par trouver du réconfort. Le réconfort, c'est aussi le maître mot de sa madeleine, qui n'est pas chocolatée, mais qui sent bon le matin et les tartines.
Ma madeleine, c'est du pain et du beurre trempé dans du café au lait. Ça me rappelle mon père, qui mangeait ça le matin au lit, et parfois j'allais le voir au lit et il me faisait goûter. Je voyais le pain qui se mouillait dans le café au lait, et puis le goût, c'est pas le même goût que le pain et le beurre trempé dans du café, attention hein. Quand il y a du lait, c'est différent. D'ailleurs, le café au lait, c'est une chose très italienne, je trouve. En Italie, même aux enfants, on donnait du café au lait le matin, et même parfois le soir. On dînait pas, on décidait qu'on dînait pas et on mangeait du café au lait avec du pain et du beurre. Donc c'est une tradition italienne, plus trop maintenant, mais d'avant. Et en tout cas, ça m'arrive pas souvent de tremper une tartine de pain et de beurre dans du café au lait, parce que je bois plutôt du café seulement, seul. Mais quand je le fais, immédiatement, j'ai l'endroit du lit de mon père, j'ai le coin du lit où moi je m'asseyais, j'ai lui allongé. J'ai la tasse, j'ai le matin, j'ai quelque chose qui était toujours extrêmement doux et rassurant et joyeux dans les moments où j'étais seule avec mon père, où j'avais l'impression d'être très, très, très regardée. Et alors peut-être que ce regard-là, voilà, il a le goût de la tartine trempée. Le pain, c'était pas de la baguette, c'était du pain différent, italien. C'est pas de la baguette, on n'a pas de la baguette, vraiment. Et puis voilà, donc les ingrédients, c'est des ingrédients italiens. C'est pas les mêmes goûts, hein. C'est pas rien n'a le même goût en Italie. Mais c'est vrai que en général, dans ma vie, le café me rassure, le beurre aussi. C'est quand même ça, ils font partie de ma vie, ils font partie de mon quotidien. Ces goûts-là font partie de mes rituels.
Voilà pour la madeleine de Valeria Bruni-Tedeschi, qu'on retrouve donc à l'affiche du film de Catherine Corsini, La Fracture, qui est sorti ce mercredi. Stéphane Bonnat, on entendait pain, beurre, j'ai envie d'ajouter et chocolat, parce qu'on peut mettre une tablette de chocolat sur du pain et du beurre. Quand on est petit, on aime ça, non?
Exactement, c'était le goûter. Vraiment, par définition, on avait une tranche de pain et un bout de chocolat. En tout cas, lorsque j'étais en école primaire, si ma mémoire est bonne, et j'étais furax que ça ne soit pas mon chocolat, parce que ce qu'on mangeait, c'était pas très bon. C'était granuleux, c'était... très gras.
Souvent chocolat au lait ?
Non, là c'était du chocolat noir.
Non, c'était quand même du chocolat noir.
Le chocolat noir est en règle générale beaucoup moins coûteux que le chocolat au lait. Le lait...
La rajoute.
Exactement. Parce que il faut des
et un bon chocolat pour vous, c'est du cacao, du beurre de cacao, du sucre et rien d'autre.
Et rien d'autre. C'est la recette. C'est très simple. Hein. Et plus c'est simple, plus c'est compliqué à faire.
C'est ça. C'est ça. Et alors vous nous avez donc apporté un certain nombre de tablettes. Quelle tablette auriez-vous choisi pour votre goûter ?
Très bonne question. Alors tout dépend de l'heure à laquelle le goûter intervient. Si on est à l'heure.
16h, 16h15, 17h.
Ouais, non, mais il y en a à 10h aussi. Attendez, les enfants courent beaucoup. La recette originelle est en fait la recette de la Maison Bonnat depuis 1880. Donc c'est un assemblage de 7 origines. Alors pourquoi ? Tout simplement pour que le chocolat ait le même goût toute l'année. Puisque dans le cacao, on a jusqu'à 3 récoltes par an. Et on a de grosses variations d'une récolte à l'autre. Par exemple, sur certaines de nos plantations, nous n'utilisons qu'une seule des deux récoltes. Enfin, des deux récoltes majeures. Parce que la seconde ou la première ne satisfont pas à mon palais. En fait, parce que moi, je fais un métier qui est assez rigolo, c'est-à-dire je fais des trucs pour me faire plaisir, et j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a plein de gens qui achètent ce que je fais.
Mais donc le goût Bonnat, c'est un goût qui vient d'un assemblage de 7 origines de
cacao.
Oui, et
qui est le même depuis le début, ce qu'on appelle le chocolat de couverture. Chocolat de couverture qui sert à enrober par exemple des petits carrés de praliné, du nougat, de la nougatine, et qui, pour que la recette soit la même toute l'année, nécessite un mélange de plusieurs origines. Et à contrario des pures origines, qui ont été créées par mon père
en 1983.
Pour la saison 83-84. Et il était amateur de vin, il était vraiment gastronome averti, et il trouvait dommage que nos clients ne sachent pas que le cacao avait des palettes aromatiques différentes d'une récolte à l'autre et d'une plantation à l'autre.
Comme les vins ont leur cépage, leur terre,
exactement,
les cacaos ont leur terroir.
Pour, à l'époque, le salon d'Intersuc, mes parents ont décidé de faire une boîte avec 7 origines différentes. 2 ans plus tard, il n'y avait pas un chocolatier digne de ce nom qui n'avait pas au moins 2 origines pures.
Appelez les grands crus.
Tout à fait.
Du cacao Bonnat.
Tout à fait.
Donc là, dans ces tablettes, on y revient, parce que j'ai vraiment quand même très envie que vous goûtiez, que vous nous donniez les termes. Parce que les termes de la dégustation du chocolat correspondent aux termes de la dégustation d'un bon vin. On va parler d'un goût équilibré, fruité, intense, délicat, puissant, corsé, boisé. Alors maintenant, je vous laisse ouvrir vos tablettes, en choisir et nous dire.
Eh ben, écoutez, on va commencer par la fameuse recette originale. Qui est pour moi, c'est un produit qui est parfait pour découvrir le chocolat.
Et pourquoi il est parfait ?
Parce qu'il est bien équilibré, c'est un chocolat qui est gentil, il est
fruité. Un chocolat est gentil ?
Voilà, il est
fruité. Il est doux ?
Oui, il a du caractère, mais il n'a aucune agressivité.
C'est simple d'accès peut-être.
Oui, non mais c'est... tenez, je vais vous en donner un petit peu, parce que sinon je vais tout manger.
Je m'attendais plus ça.
Et c'est un chocolat qui est gentil. Et qui va dont les arômes vont monter crescendo et qui vont finalement initier une espèce de petit voyage bien sympathique et on a tout de suite envie d'en remanger un petit peu,
n'est-ce pas, Mathéo? On a tout de suite envie d'en remanger. Donc celui-là, c'est l'assemblage.
Tout à fait.
C'est le fruit de l'assemblage des 7 origines
dont
on parlait tout à l'heure.
Chacun de mes confrères, par exemple, vous allez chez Philippe Bernachon à Lyon, qui est un copain de longue date, sa recette peut utiliser les mêmes cacaos que moi. Par contre, le ratio d'une provenance plutôt que d'une autre et la torréfaction, qui est en fait plus une cuisson dans le cacao que dans le café, par exemple, seront différentes et sa signature sera différente de la mienne. Ce qui ne veut pas dire que la sienne est bonne, la mienne est mauvaise ou l'inverse. C'est juste que notre vision du chocolat est différente.
Donc c'est ça, pour faire un très bon chocolat, Stéphane Bonnat, il y a à la fois le choix des fèves. Au moment où vous la goûtez, je crois que la signature du cacao, c'est le mucilage, c'est ça ?
Oui, c'est une pulpe qui est extraordinaire, qui est vraiment
blanche.
Oui, qui se trouve autour des fèves, à l'intérieur de la cabosse, et qui va, en ce qui me concerne, m'indiquer quelles sont les véritables signatures du cacao, c'est-à-dire les parfums un peu délicats ou ce qui va différencier une parcelle de la plantation plutôt que d'une autre. Et ça, je vais le noter sur un petit carnet. On va ensuite mettre en place une fermentation qui va essayer de fixer ces arômes dans les fèves. Et quand le cacao va traverser l'océan et se retrouver à Voiron, je vais reprendre mon petit carnet.
Oui, c'est ça, c'est à Voiron en Isère, c'est là où on l'a pas encore dit, je crois.
Et
où est votre maison.
Et nous allons essayer de suivre ces parfums qu'on va détecter à la torréfaction pour les garder dans le chocolat. Mon père avait pour habitude de dire que dans le process de fabrication d'un chocolat, chaque phase est la plus importante. Mmh. En fait, on a absolument pas le droit de se tromper.
Donc, choix des fèves, fermentation,
séchage,
torréfaction, conchage. Je vois quand même que vos chocolats peuvent être conchés pendant 48 heures. Donc, c'est aussi du temps.
C'est beaucoup de temps. Alors, il existe des méthodes de fabrication qui permettent de faire en un peu moins d'une heure ce que l'on fait en 4 ou 5 jours, sauf que le résultat n'est pas le même, et qui plus est, il est nécessaire d'ajouter des émulsifiants, comme de la lécithine, que ce soit de soja, de tournesol ou n'importe quoi, et quelquefois des protéines de lait qui vont agir comme une espèce de colle afin que le chocolat reste homogène, parce qu'il a été fabriqué trop rapidement. D'autre part, le conchage, c'est une nécessité pour faire super rapide, parce que je suis une vraie pipelette.
Et que le temps est compté.
On change la structure moléculaire du cacao. En fait, les molécules sont de forme adamantine, donc des petits diamants avec plein de pointes, et ces pointes seront senties comme l'acidité et l'astringence. Le conchage va forcer ces molécules à s'entrechoquer et à s'arrondir. En fait, la réalité rejoint l'image où on arrondit le goût du chocolat en se débarrassant de l'acidité et de l'astringence.
Vous n'aimez pas tellement l'amertume au chocolat ?
Non, pas du tout. Ça paralyse le palais, c'est désagréable, ça n'amène aucun plaisir.
Et pourtant, vos chocolats sont pas très sucrés.
Non, mais là aussi, côté un petit peu paradoxal des choses, vous prenez un Équateur, à 65%, il est beaucoup plus tonique et amer qu'à 75%, parce que l'amertume va s'appuyer sur le sucre. Donc plus on aura de sucre, dans une limite de 10 à 15%, hein, mais plus on va amener de sucre et plus on va avoir un chocolat percutant. Ce qui permet aussi d'avoir des chocolats avec un faible pourcentage, qui vont vous exploser le palais. Et là, il y a certaines personnes vont dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort et acide, c'est sûrement un chocolat de qualité ». Bah non, pas du tout, c'est l'inverse.
Merci beaucoup Stéphane Bonnat d'être venu nous expliquer en quelques mots votre métier de maître chocolatier et d'être venu nous dire à quel point on peut déguster différemment avec beaucoup de subtilité.
Mais je vous remercie.
C'est tout un art, hein, ce chocolat. Sur le site, vous nous avez proposé, et nous vous en remercions, la recette des crujettes, comme des orangettes, mais avant les orangettes, il y avait les crujettes Bonnat.
Pourquoi crujettes ? Petite histoire, mais je suis désolé de mon côté pipelette, mais Monsieur Krug était un ami de mon arrière-grand-père et il mangeait fréquemment ensemble, et Madame Krug a eu l'idée d'avoir de l'orange confite et du chocolat, sauf que c'était juste un petit peu comme ça. Donc, il a créé deux bonbons de chocolat, le premier aiguillette d'orange confite enrobé de chocolat, et le deuxième un sucre battu avec de l'orangea dedans, donc de l'orange confite haché. Il a proposé les deux produits, elle a choisi l'aiguillette d'orange, qui s'est vue recevoir le nom de crujette, et l'autre Orangine. Et quand les confrères de mon arrière-grand-père lui ont demandé de refaire le même chocolat, il a dit oui, mais avec un autre nom, et c'est devenu Orangette partout ailleurs. La crujette, c'est la base.
C'est l'origine de l'orangette. Merci beaucoup Stéphane Bonnat. Chocolat, c'est donc le livre que vous avez fait paraître aux éditions La Maison comme la maison Bonnat. Et je rappelle que vous serez au Salon du Chocolat, vous y êtes d'ailleurs, puisque c'est Porte de Versailles à Paris, c'est jusqu'à demain, oui. 1er novembre. Un grand merci. Les bonnes
merci
choses s'écoutent aussi, quand vous le voulez, sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France, avec l'équipe Roxane Poulin, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, June Lopère à la réalisation et notre technicien du jour, Olivier Arnay. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marie Witzmann.